Bonjour. Au sommaire, le prochain livre de Dewe Gorodé, une rencontre avec Claudine Jacques, un ouvrage sur la case, des lettres de déportés réunies dans un livre et le quatrième épisode de La Vallée du Silence.
Caractère, le magazine littéraire. Une émission proposée et réalisée par Alexandre Rosada.
Vous le savez, l'opération Lire en fête s'est achevée le mois dernier et plusieurs lieux de parole ont été investis à cette occasion, notamment la médiathèque de Rivière-Salée où se sont rendus plusieurs écrivains calédoniens. Dewe Gorodé et Claudine Jacques en faisaient partie. Devant plusieurs dizaines de personnes, Dewe Gorodé a répondu aux questions et expliqué sa passion d'écrivain. Face à elle, des collégiens visiblement intéressés.
D'abord, je pensais que c'était bien parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur elle et sur son métier.
Et vous ?
Ben, c'est pareil, ça donne envie aussi d'écrire.
Ben oui, pareil. Parce qu'elle nous montre des bons exemples et ça nous encourage aussi. Parce qu'on voit que c'est une femme canac, elle a beaucoup d'expérience, de conseils. Et c'est bon pour tous les jeunes qui sont ici en Nouvelle-Calédonie.
Qu'est-ce qu'elle a dit qui vous a intéressé ?
Ben, qu'elle a écrit des poésies sur ses ancêtres.
Et c'était aussi une occasion pour nous de poser une question à l'écrivain. Alors, Madame Dewe Gorodé, êtes-vous dans l'écriture d'un nouveau roman ?
Je suis toujours en train d'écrire. Disons que je prends toujours un moment pour écrire. Hein. Vous savez, l'écriture, c'est quelque chose qui fait partie de ce que nous sommes, de ce qu'on est. Et donc, oui. Quand on est auteur, je crois qu'on arrive toujours, on se débrouille toujours pour avoir un petit moment pour s'adonner à l'écriture.
Quand allez-vous publier ?
Bon, ça c'est... c'est une autre... Ça c'est un autre problème, je dirais. Je ne dirai pas quand, mais je sais que je... Oui, je continuerai à publier. Hein.
Je peux vous demander quel est le thème de votre prochain livre ?
Tout à fait, oui, le livre sur lequel je suis en ce moment, c'est, la différence entre l'homme et la femme, en ce sens que pour moi, c'est la femme qui représente plus les racines, et l'homme, il passe, je dirais. Et l'homme en question, le personnage en fait, du texte que je suis en train d'écrire, est vu à travers un ou plusieurs journaux intimes. Mais lui-même se raconte. Mais voilà, en gros, c'est cette opposition-là. Entre la femme, symbole de l'enracinement, et puis l'homme plus aérien, je dirais.
La semaine suivante, c'était au tour de Claudine Jacques de participer à une causerie. Claudine Jacques est née à Belfort, mais s'est enracinée sur le Caillou. Elle vit à Bouloupari et s'est consacrée depuis 10 ans à l'écriture. Elle a déjà publié, entre autres, « À l'encre de nos vies »,« Nos silences sont si fragiles »,« Les cœurs barbelés », et le piège. Elle vient de sortir chez Grain de Sable un livre jeunesse, KO.NC, mais elle est aussi dans l'écriture d'un roman dont l'action se déroule dans un squat. Mais écoutons Claudine Jacques nous parler de son écriture calédonienne.
J'avais toujours eu l'intention d'écrire, je pense que j'écris depuis toujours. Mais je m'étais donné des priorités. Donc la première, c'était d'élever ma fille. Et puis maintenant, elle est grande. Donc lorsqu'elle est rentrée à l'ITFM, j'ai donc arrêté de travailler. Et puis j'ai commencé à écrire. Je me suis consacrée à l'écriture il y a une dizaine d'années de ça.
Vous pensez qu'on écrit pour quelque chose, pour dire quelque chose ?
Enfin, en ce qui me concerne, c'est pour être plus proche de la vie. Je crois que j'en ai besoin. C'est ma façon d'exister. Ce qui m'intéresse le plus, c'est peut-être l'individu. C'est sa façon de vivre tous les événements de sa vie. Je crois que c'est ça. C'est ma façon à moi de regarder les choses et puis d'en témoigner. Je crois que c'est un témoignage pour moi, l'écriture. Oui.
Témoignage, c'est parce que vous voulez laisser une trace ?
Alors, certainement, inconsciemment, on a envie de laisser quelque chose, mais je crois que ce n'est pas seulement l'écrivain. Je crois que chaque individu a envie de laisser son empreinte ou dans le sol où il est né, ou dans les livres, ou ailleurs, ou dans sa famille, ou je ne sais quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller jusqu'à l'intime, quoi. Donc. C'est tout ce que je peux dire. Je veux dire, j'ai du mal à parler de ce que j'écris, de la façon dont je l'écris. Et je ne sais même pas si j'ai un style. Je veux dire, c'est les autres qui m'en parlent. Voilà, c'est tout.
C'est l'humain qui vous intéresse, finalement.
Ah oui, c'est l'humain. Ouais, oui. Bah, c'est ça, la vie, hein, c'est l'humain. C'est... Sinon, je ne vois pas tellement l'intérêt. C'est pas anodin, l'écriture, c'est quelque chose qui est déstructurant aussi. C'est quelque chose qui, autant il y a des moments ça peut être structurant parce qu'on sait qui on est et comment l'on envisage sa propre vie, mais ça peut être aussi complètement déstructurant parce que le fait de raconter l'histoire des autres et de s'impliquer dans cette histoire-là peut très facilement mener soit au pessimisme, soit carrément à la dépression. Tout dépend de ce que je traite au moment où je le traite. Et moi, je me souviens d'une phrase de Chateaubriand qui disait « J'écris dans mes moments de tristesse, j'écris des choses ayant trait au bonheur. » Et inversement, eh bien moi, je ne peux pas. Le fait d'écrire des choses difficiles me déprime, je suis quelqu'un de déprimé à ce moment-là. Je vis ce que j'écris, je crois. Donc, alors, c'est peut-être du masochisme parce que j'aime autant écrire des choses gaies que des choses difficiles. Et j'écris souvent plus de choses difficiles quand même. Donc, il y a quelque chose, il y a certainement. Oui, c'est déstructurant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que j'en ai besoin.
Vous diriez que l'écriture est une façon de soulager quelque chose d'interne ?
Pas forcément. Je pense que l'écriture, enfin encore une fois, c'est pour moi. Hein. Je pense que l'écriture, moi je suis arrivée au moment de ma vie où c'est un besoin absolu. Et je crois que j'ai autant besoin de bonheur que de malheur lorsque je suis dans mon rôle d'écriture, dans mon rôle d'écrivain. Bon, je ne sais pas si c'est de l'empathie avec mes personnages, mais il y a des moments où je me dis, il faut que je respire, il faut que j'arrête, il faut que j'aille voir autre chose, parce que sinon, bon, je ne sais pas jusqu'où ça peut mener, hein, mais j'ai déjà discuté avec d'autres écrivains qui ressentent exactement la même chose, donc... je crois qu'on ne peut pas penser à l'écriture comme quelque chose de gratifiant seulement. Je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être très pénible. Mais il y a un besoin qui est là. Et je disais aux jeunes, c'est peut-être mon cannabis à moi, mais j'ai besoin d'être dans ces états-là, dans ces états d'âme-là.
Parlons de vos projets d'ouvrage, de sortie de romans, de nouvelles ou autres. Est-ce qu'il y a des choses justement qui vont sortir ?
Je suis sur un roman et en même temps un recueil de nouvelles. Et pour la première fois dans ce recueil de nouvelles, je sors de Calédonie puisque j'ai des textes qui traiteront de l'Australie, de Tahiti et puis de l'Afghanistan. Bon, c'était avant les tours jumelles, puisque j'ai déjà écrit ce texte-là. Mais le tchadri et les violences faites aux femmes afghanes m'avaient tellement perturbée à un moment donné que j'avais voulu écrire quelque chose là-dessus.
Le roman portera sur quoi ?
Alors, ça se passe dans un squat. C'est un jeune garçon qui est sculpteur, qui a de très grandes possibilités. mais qui représente quand même, enfin, qui a une difficulté à vivre sa vie de jeune sans argent, qui doit se faire un nom, etc. Et il lui arrive pas mal d'aventures. Bon, et sa sœur, une jeune fille qui, elle, représente tout ce qu'il y a de pur et de possible dans un monde généreux, quoi. Voilà. Et puis bon, la trame, c'est un meurtre dont on ne trouve pas tout de suite le coupable, bien entendu. Mais c'est secondaire, je dirais, la trame. C'est davantage un portrait de personnage, quoi.
Du 21e siècle, nous allons faire un saut dans le passé et nous retrouver au 16e siècle avec un marin espagnol, Pedro Fernández de Quiros. Il fut un des explorateurs des régions australes et notamment des îles Salomon, des Marquises, des Cooks du Nord et du Vanuatu. Un récit sur lui vient de paraître chez l'Harmattan. Annie Berthe, agrégée d'espagnol, est son auteur, et l'ouvrage est préfacé par Paul de Decker que nous avons rencontré. Il nous indique de quand date cette présence espagnole dans le Pacifique.
Elle date de l'époque de Charles Quint. Des voyages sont entrepris dans le Pacifique, financés soit par le roi d'Espagne, soit par la vice-royauté du Pérou, et ce sont des voyages qui ont pour objectif de trouver de nouvelles ressources économiques. Et les Espagnols sont persuadés aussi qu'ils vont trouver des populations géantes, en plus d'y trouver de l'or, des pierres précieuses, et ainsi de suite. Et dans la thèse qu'elle a effectuée sous ma direction, Annie Baer démontre aussi une chose. C'est que le Pacifique, à l'époque des Espagnols, a été conçu comme un monde paradisiaque. Ce sont donc les Espagnols qui ont donné l'idée à Jean-Jacques Rousseau, au Bougainville. C'est donc pas une idée émanant de France, mais une idée émanant d'Espagne.
On est dans une époque très chrétienne, très religieuse, et on recherche cet inconnu, ce monde, cet ailleurs.
Alors également avec les pères franciscains qui accompagnent les expéditions, que ce soit celles de Quiros ou Mendaña et tout cela, il y a bien sûr une volonté d'évangéliser les populations indigènes qu'on rencontre. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que tous les noms bibliques dans le Pacifique ont été des noms attribués par les Espagnols. Par exemple, les îles Salomon, c'est biblique ça. Mais ceux qui ont rencontré les premiers, les Salomon, sont des gens comme Quiros et tout ça.
Est-ce que cette colonisation, cette influence hispanique est arrivée jusqu'en Calédonie, par exemple, et à Tahiti ?
Il n'y a pas vraiment eu de colonisation espagnole dans le Pacifique. Ce sont des voyages de découverte, des voyages de rencontres. À l'époque, on n'est pas à même de pouvoir calculer la longitude. Donc, quand on installe sur une carte à l'estime un archipel, on ne parvient plus à le retrouver parce qu'il n'y a pas de précision. C'est au moment où Cook entreprend ses voyages que là, on peut, bien sûr, avec le bureau des longitudes, définir exactement la position d'une île ou d'un archipel. Donc, pas de colonisation espagnole, des rencontres avec les populations, quelques jours. Et à mon humble avis, la Calédonie n'a pas été touchée par les voyages espagnols.
Cette période de l'histoire du Pacifique, vue par les Espagnols, est enseignée ici en Calédonie ?
Moi, personnellement, dans mes cours d'anthropologie ou d'histoire, j'évoque, surtout en DEA, j'évoque la période espagnole, qui précède ce que l'on appelle la période hollandaise. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la période franco-britannique, puisqu'une rivalité va opposer Londres et Paris pour la prise de possession d'archipels.
Je me souviens.
Est-ce que les Espagnols, finalement, ont contribué à cette image de cet ailleurs très idéalisé ?
Ah, moi, je le pense. Hein. Et Annie Baert, dans son ouvrage, le démontre très bien. Annie Baert est une agrégée d'Espagnols qui a repris les textes originaux qu'elle a trouvés à à Madrid ou dans d'autres lieux d'Espagne. Et avec beaucoup de méticulosité, elle a réapprécié et tout ce qui a pu se produire, et avec un œil d'historienne, mais aussi un œil d'anthropologue, puisqu'elle fait une anthropologie aussi des équipages sur ces frégates. C'est prodigieux ce qu'elle transmet dans les trois volumes maintenant qu'elle a publiés.
Je me souviens.
Et voilà, c'est le moment de notre pause musicale et j'ai choisi pour vous un titre de Claude Mbarali, alias MC Solar, à la musique Jimmy J. Un morceau intitulé « Temps mort » que l'on écoute dans le texte.
Sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du pôle, j'avais trouvé ombrage. J'étais naïf comme Rousseau, pas le dernier le philosophe, mais toujours alerte comme dinosophe. Nous étions loin, mais loin des problèmes de banlieue, étions des anonymes dans cet autre milieu. Jimmy semblait aux platines dans sa grosse bouée, c'est contre une glace que mon micro avait été troqué. Mais même dans ce domaine qui mène à l'Éden, un pachyderme de haine me cause des problèmes. Je déteste qui me teste, qui me déteste, qui me prenne la tête, son plaque est dans mes textes. Bouge de là, hasta luego, away, away. Au bout de quelques minutes, il s'en va. Parfait, je suis fan de mes fans, ils m'aiment, je les adore. Mais quand viennent les haineux, belliqueux, temps mort. Dans un petit magazine, un modèle m'interpelle à cause de victime de la mode et me dit que c'est son boulot et qu'elle n'a pas de nom de code. C'est cool, ok, j'admets. Prends ça comme une excuse et va-t'en, s'il te plaît.
Garde tes excuses, nous sommes pas du même monde et puis regarde tes pontes désuètes, elles sont immondes.
C'est triste à dire, mais je n'ai pas bronché. Est-elle créatrice pour dire que je suis mal sapé? L'antimode est à la mode, moi je démode la mode. Cette cloche était à la mode, mais son esprit fort moche. C'était l'un des 10 indices au-delà de la plastique du corps qui m'a fait dire pause, faut que je me repose, temps mort. Un peu partout, que loup se reloue, chelou et tout, on s'aperçoit bien vite que les gens parlent pour rien, alors je parle moins et tente de faire le bien. Si je t'ai plaqué dans ce texte, c'est pour que tu vois ton attitude une fois sortie du contexte, alors prends ça comme un conte philosophique, prends du recul pour qu'avance ton sens critique. L'autodidacte n'est pas didactique, ça c'est le hardcore, il laisse ton esprit à la quête du pourquoi de tous ces temps morts.
Et nous restons dans la puissance du verbe avec des écrits du passé et cet ouvrage de Virginie Buisson, Lettres retenues, paru au Cherche Midi éditeur. Virginie Buisson a consulté des dossiers de déportés aux archives d'outre-mer et elle fait revivre des centaines de lettres de déportés de la commune. Ce sont des mots souvent émouvants sous la forme de lettres d'amour, de billets de passage ou de demandes de nouvelles. Écoutons quelques-unes de ces lettres retenues, aujourd'hui libérées.
Demande de nouvelles. 17 janvier 1879. Monsieur, je prends la liberté de vous demander un petit renseignement. J'ai mes deux fils qui ont été déportés depuis la commune. Leur nom est Édouard Solin, âgé de 48 ans, et Joseph Solin, âgé de 38 ans. N'ayant reçu aucune de leurs nouvelles depuis la déportation, je suis bien chagrin de cela. Ayez la bonté de me faire savoir s'ils sont morts ou vivants. Je compte sur votre aimable réponse au plus vite. Solin Père, âgé de 78 ans.
Lettre d'amour à Monsieur Génard, fabricant d'huile, boulevard de Belleville, numéro 9, Paris. Nouméa, le 17 juillet 1879. Mon père, depuis que je suis arrivée en Calédonie, voilà la 8e année. Je suis restée sans nouvelles, c'est en vain que j'écris, personne ne m'a répondu. Que t'ai-je donc fait pour mériter un oubli pareil? Ne me suis-je rendu coupable d'un acte que l'on ne me pardonne pas? Je l'ignore. Ce que je crois, c'est que tu ne m'as jamais aimé, qu'au contraire, tu es content de mon éloignement. Aussi, mon intention est-elle de ne pas rentrer, du moins pour le moment. Cela ne m'empêche pas de penser à toi et à ceux qui, pour moi, sont tout. Et malgré ta façon d'agir à mon égard, je n'ai jamais cessé de t'aimer et de te respecter comme un père doit l'être. Ce que j'ai à te demander aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, c'est une lettre qui me fasse connaître ma position en France, comme famille et comme avenir. Je termine en t'annonçant que je suis boucher à Nouméa et très content d'avoir choisi cette profession, car mes petites affaires ne sont pas mal. Ma santé est bonne et je souhaite que ma lettre te trouve de même. Je vous embrasse de tout cœur, votre fils, Génard Max, boucher, valet des colons, Nouméa.
Le 24 août 1879. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous adresser une demande de renseignement sur le nommé Henri-Joseph Piévert, né à Saint-Amand-les-Eaux, condamné sous la Commune. En un mot, ce jeune homme est mon fils. Daignez tirer une mère de l'inquiétude.
Caractère continue sur le territoire avec un livre éducatif sur la case, paru aux éditions Planète Mémo. Nous avions déjà reçu un responsable de cette maison d'édition pour nous parler de cette collection, riche en photos et bien documentée. Aujourd'hui, pour le numéro sur la case, nous avons rencontré Béalo Wedoy. Il a été un des consultants à la réalisation de cet exemplaire. Avant de nous parler de l'importance de la case en milieu kanak, il réagit à ce nouveau livre.
Moi, mon impression, c'est qu'il manque un petit peu de, comment dire, de citations ou de récits mythiques pour donner un peu plus de profondeur à ce type de document, enfin, ce type d'ouvrage qui est destiné à tout public. Mais à mon avis, le tout public, il doit aussi, en lisant un bouquin, un livre. Comme celui-ci, qui est agréable, parce qu'il y a beaucoup de photos, hein, c'est super, mais aussi qu'on amène petit à petit et le lecteur à par moment à s'intéresser à ce qui est en profondeur, parce qu'on parle de la case, ce qui est à l'intérieur de la case. Donc il y a des éléments, architectural, technique, etc. Mais aussi, il faut parler de ce qui est mythique de la case. Et ça, c'est, à mon avis, c'est important, parce que là, c'est on situe la case dans son plus profond rôle dans la société.
Quelle a été votre part, vous? Comment est-ce que vous avez contribué? Vous avez été consulté? Vous avez fait des recherches?
Moi, j'ai donné que tout ce qui est éléments traditionnels concernant la case. La construction de la case, les éléments symboliques de la case, le rôle que joue la case dans un espace donné. La case est le chef. La case et les autres clans. Donc j'ai expliqué le fond, le contenu en fait de la case.
Alors Béalo Wedoy, justement, parlons un petit peu de la case. Est-ce que la case a un rôle important dans le monde mélanésien?
La case, on peut comparer à l'igname. Par exemple, l'igname et le cycle de l'igname. Ce sont les deux éléments de la société traditionnelle kanak qui, à chaque fois qu'une personne parle lors des cérémonies très importantes, cérémonies coutumières, va toujours faire référence à la case, à l'igname, au cycle de l'igname. Donc la case fait partie de quelque chose de fondamental de la société.
Est-ce que vous diriez que c'est l'enveloppe de l'homme kanak?
Peut-être, on peut le dire comme ça, mais il y a l'igname aussi qui est important. Donc il y a aussi l'igname. Dans certaines régions, il met beaucoup plus l'accent sur l'igname. Dans cette région, non.
Construire une case pour le monde kanak, c'est un acte de solidarité. Ça se fait, le groupe participe à la construction. Comment est-ce que ça se déroule?
Le projet d'édification d'une grande case dans la société kanak est très important. parce que c'est le moment où tout le groupe, tout le village, tout la région, toutes les communautés vont se réunir autour d'une seule parole, puisque dans la société kanak, on dit que la parole, elle est une seule, même s'ils sont plusieurs, s'il y a plusieurs familles, mais une seule parole suffit. Donc ce jour-là, c'est tous les clans, toutes les familles, tout le pays va se réunir pour l'édification de cette grande case. Donc chaque famille, chaque personne a un rôle à jouer dans cette à ce moment-là. Il y a les gens qui vont couper du bois, il y a les gens qui vont cueillir les lianes, il y a les gens qui vont couper la paille, il y a les gens qui vont chercher les cailloux pour faire la base de la case. Il y a les sculpteurs, il y a des gens qui vont à la chasse pour préparer à manger, à la chasse, à la pêche. Chaque clan, chaque personne a un rôle très important pendant durant la période de la construction de la case. Ça pour la grande case, pour la case symbolique, mais pas pour les petites cases. Les petites cases, chaque famille construit sa petite case.
Alors Béalo Wedoy, on va terminer avec le autour de la case. On a dans la tradition et la culture kanak des plantes qui sont chargées de symboles. Il y a des plantes particulières qui bordent et qui entourent la case.
Oui, oui, oui. Il y a en fait les fameuses cordélines rouges, cordélines vertes, qui sont aux abords de l'entrée de la case et même derrière la grande case. Ce sont en fait des plantes qui sont comme les... vous allez rire un peu parce que souvent je prends cet exemple. Ils sont comme les panneaux de signalisation quand on marche dans la rue Donc ces types de plantes sont là pour indiquer, pour montrer, pour indiquer qu'il y a un espace à ne pas franchir, un espace où on va franchir. Ce sont comme des panneaux de signalisation. Donc, rien qu'en voyant ces plantes, on fait une lecture en disant « Ah, ça c'est une chefferie, ça c'est un cimetière, ou c'est une sépulture, ou ça c'est un endroit où les gens cultivent, donc il ne faut pas accéder, il faut demander l'autorisation. » Donc le rôle de ces plantes, c'est le rôle de panneaux de signalisation.
En conclusion, Béalo Wedoy, on peut dire que la case pour le kanak, c'est la vie.
Oui, c'est là où la vie s'articule, en fait. C'est là où la vie s'articule. C'est là où la personne, l'homme réfléchit, trouve des idées. C'est là où l'homme se réunit, où les hommes se réunissent. C'est là où les femmes se réunissent. C'est là où l'homme vit. C'est là où les enfants vivent. C'est là où la femme et l'enfant vivent. C'est là où, lors des grandes cérémonies, on échange des tissus, on échange les monnaies traditionnelles. C'est là où la personne trouve, l'âme trouve des idées pour que l'humain puisse sortir de la case avec son identité accrochée à lui.
Et nous terminons avec le feuilleton de la Vallée du Silence, l'audiodrame de Roger Richard et Jean-Marie Otti. Dans ce quatrième épisode, nous allons entendre les chefs de la tribu Kanak s'entretenir du danger de la présence de l'ingénieur métropolitain Carné. Mais d'abord, le colon Gauthier parle de rien du tout, le mauvais génie hermaphrodite, et il raconte la légende des pyrophtalmes.
Les périophtalmes sont de petits amphibies bizarres, aux yeux extrêmement mobiles, d'où ce nom. Ils sautillent au long des racines de palétuviers, avec des apparences troublantes d'humanité minuscule. Vous les entendrez aussi appelés hippocampes, bien qu'ils ne ressemblent en rien aux poissons que l'on appelle de ce nom en Europe, et qu'on trouve ici aussi sur les côtes comme dans tout le Pacifique. Amphibies rejetés par la mer, rejetés par la terre, les périophtalmes attendent en vain à la limite bourbeuse de ce qui n'est ni le sol ni l'océan. D'innombrables périophtalmes sautillent entre les racines des palétuviers des plateaux fangeux de Foniwo, non loin des marais du cinquième. Ce sont des hommes, en pénibles conditions, par la faute d'une fille qui voulut être un garçon, par la faute d'une femme qui se voulut homme, par la faute d'une fille de chef qui voulut non seulement régner, contrairement à la coutume qui interdit le pouvoir aux femmes, mais encore régner à la façon d'un mâle. Elle voulut changer les habitudes des humains, nier le couple. Le couple, le nombre pair, la protection suprême.
Un beau cas d'hermaphrodisme.
Cette fille-là, les Kanaks préfèrent ne pas prononcer son nom. Ils l'appellent quand ils en parlent, rien du tout. Au lendemain de la mort de son père...
Tu l'as vu de près, toi, Andoui?
Il est jeune.
Il a des lunettes ou il n'en a pas?
Il est jeune, mais il a des lunettes. Et il a tout à fait l'allure de ceux qui prennent leur force dans les livres.
La vallée du silence sera plus forte que lui.
Il a ses boîtes avec lui? Il est venu seulement comme ça. Il n'a pas encore avec lui toutes ces machines à mesurer et à voir de loin. J'ai bien regardé quand il est arrivé avec le brigadier. Mais Anouméa, il a beaucoup de boîtes. Avec ses outils, il est fort. S'il est plus fort que la vallée du silence, celui-là, ce sera peut-être bon.
S'il était plus fort, ce serait très mauvais pour tous. Mais il ne sera pas plus fort. Souvenez-vous, tous les endroits qui doivent être préservés ont été préservés. Ils se sont installés au Minyamangi. Ils croyaient avoir vaincu la montagne du tonnerre, mais ils ont dû fuir. Ils se sont installés à Donyi, à la demeure du génie des eaux. Mais ils ont dû partir. Le géant lui-même d'une autre race, celui-là, le géant qui a longtemps terrorisé la région de Pokro, a été vaincu. Souvenez-vous aussi des hommes rouges venus de la mer, autant les plus lointains. Ceux-là qui partout dans l'île ont gravé les signes de l'éternité et de leur race dans les rocs les plus durs. Elle était puissante, leur race. Et ils sont partis. Et seuls les signes dans la pierre gardent leurs souvenirs. Aucune des forces venues de la mer n'a jamais pu vaincre les puissances de la montagne.
Peut-être celui qui vient aujourd'hui a-t-il dans ses boîtes quelque chose de plus fort que tout.
Ces hommes-là savent qu'il y a du fer ou du cuivre ou du nickel dans une pierre, oui. Mais la force essentielle de la pierre, ils l'ignorent. Nos anciens ont dû se soumettre à la magie de la vallée du silence. Et tous les hommes. Ceux-là n'y échapperont pas plus que les autres. La couleur de la peau n'y fait rien, ni les outils. Il y a le domaine des hommes et il y a le domaine des dieux. Les dieux laisse une certaine liberté aux hommes, mais ils se réservent certains lieux, comme cette vallée du silence. Ces lieux doivent être respectés pour que demeure la race des hommes, quelle qu'il soit. L'avertissement nous a été donné, et il est bon pour tous. Une fois, toutes les valeurs ont été confondues, et nous avons failli en périr. Souvenez-vous de rien du tout, ni homme. Ni femme. Cela arriva par sa faute, vous le savez. Au lendemain de la mort de son père, le chef, elle se présenta à la tribu et dit...
Je suis le chef. Je suis celui qui doit régner. Écoutez ce que disent les ancêtres.
Par on ne sait quel maléfice, rien du tout contrefit la parole des ancêtres.
Nous, les ancêtres,
nous vous le disons. Croyez-la.
Elle porte les armes,
les insignes, les ornements et les attributs des hommes.
Nous vous le disons.
Elle est un homme.
Elle est le chef.
Soumettez-vous.
Nous, les ancêtres. Nous vous le disons.
Croyez-la. Qu'elle porte les armes.
Les insignes.
Les ornements.
Les attributs des hommes. Nous vous le disons.
Elle est un homme.
Elle est le chef.
Voilà qui met un terme à notre émission. Remerciements à Gwenola Kemener et Axel Messinel pour leur lecture de texte. Merci de nous rester fidèles. Au revoir à tous.
C'était Caractère, le magazine littéraire. émission proposée et réalisée par Alexandre Rosada.